Bon vendredi matin, tout le monde. La fille va mieux, ça sent mieux, ça sent mieux. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. C'est vendredi et je suis bien contente d'être avec vous ce matin. Et surtout que notre premier sujet me donne l'occasion de recevoir à nouveau des invités que vous avez beaucoup appréciés. Et moi de même, la semaine dernière, on a parlé pendant une heure de notre consommation d'alcool. On avait tellement de choses à se raconter, vous et moi, avec nos invités, qu'on s'est dit... On pouvait pas ne pas en reparler. Et je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez à l'écoute vendredi dernier à pareille heure, on s'est promis de refaire un peu, pas la même discussion, mais de la poursuivre, si vous voulez bien. Puis ce matin, notre question, on l'amène un petit peu plus loin par rapport à notre consommation d'alcool. La semaine dernière, je vous posais la question, est-ce que les modèles parentaux que vous avez eus, est-ce que votre entourage, les modèles de l'enfance vous ont amené à consommer de l'alcool dans votre vie adulte? Quel genre de buveur êtes-vous? Puis là, aujourd'hui, on a envie de se dire, est-ce qu'on est inquiet finalement de notre consommation d'alcool? Ou est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on a eu un appel de Raymond. Je ne sais pas s'il nous écoute encore ce matin. Mais Raymond nous a appelé, puis son témoignage a été très, très touchant. Raymond nous témoignait à quel point c'était difficile de casser le moule de l'alcoolisme. C'est des modèles aussi auxquels on adhère depuis des années, parce que l'alcool est partout. L'alcool, je veux dire, c'est un monopole d'État. C'est tout à fait correct là, de boire de l'alcool. Je regardais encore hier à la télé, on lève notre verre. Ah, peu importe la raison, on baigne là-dedans. Alors, quand on a un problème, c'est bonne chance pour s'en sortir. Je vous représente ma fabuleuse gang. Jean-Marie Lapointe est avec nous. Merci d'être là, Jean-Marie.
Plaisir.
Conférencier, animateur, bien sûr. Justin Kingsley, créatif, entre autres, Slasher. Merci d'être là. Jessica Arnois est avec nous aussi, sommelière, créatrice des vins bus, présidente de Vins au féminin. Salut Jessica.
Salut.
Avez-vous repensé à notre discussion de la semaine dernière, Jessica?
Beaucoup. J'ai eu beaucoup de messages. Moi, je ne sais pas pour mes collègues, mais on en a parlé presque toute la semaine, en fait.
C'est vrai?
Oui, moi, j'ai eu beaucoup de messages d'auditeurs qui m'écrivaient « Est-ce que j'ai un problème d'alcool? Je bois X nombre de bouteilles de vin. J'ai de la difficulté à arrêter. Comment faire? » Donc, j'ai trouvé ça très très touchant aussi. Tu sais, on parlait de Raymond, mais il y en a d'autres qui m'ont fait, beaucoup de femmes m'ont fait des confidences sur leur consommation d'alcool. Tu sais, ils ont toujours un petit verre, puis ils se disent, c'est-tu normal? Tu sais, je suis fatiguée. Puis il y a beaucoup de culpabilité que je lisais là-dedans.
Ouais.
Donc, oui, des beaux échanges. Puis j'ai hâte d'entendre mes collègues.
Jean-Marie, toi, pendant l'émission, en tout cas, ça rentrait. Là,
c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai,
puis
quand même,
aussi.
On est tellement dans la période des fêtes là, que dès que tu arrives au bureau, tu es au resto, tu as un événement, la première chose, c'est qu'il y a un cabaret puis il y a des verres d'alcool dessus.
Ouais.
Tu sais, c'est
ouais.
tellement culturel que aussitôt qu'il y a une bonne nouvelle, on va l'arroser.
La fête! Ben
on va la fête, puis s'il y a une mauvaise nouvelle, ben on va la boire.
Ouais, exact. Oh mon Dieu, tu as tellement raison. Beaucoup de gens font ça. Hein? Le petit verre du vendredi pour aider à faire passer la semaine.
Combien de gens appellent ça le vendredi? Il y a bien des petites jokes. Ah, je m'en vais. J'y vois souvent ça sur Facebook. Enfin, vendredi, c'est vendredi. Ils ont hâte à leur verre de vin le vendredi.
Wow. Mais drôle. Toi, par exemple, sur la notion de dire, toi, justement, il y a le cabaret de plateau qui arrive avec des vins. Toi, tu bois pas du tout.
Pas du tout. Ça fait une dizaine d'années au moins que j'ai arrêté toute consommation, toute substance.
Comment tu gères ça quand c'est partout comme ça?
Ben, écoute, j'ai pas du tout soif. C'est même plus un combat. Puis,
c'est plus un effort.
Ce à quoi tu dis oui, c'est parce que tu dis non à autre chose.
Ouais.
Moi, je dis oui à me coucher de bonne heure, de me lever le lendemain matin. Puis je pense que Justin t'en parlait la semaine dernière. T'sais. Moi, me lever le lendemain matin, puis d'être en forme, puis d'aller au gym, puis d'avoir une énergie de fou, mais ça arrive parce que j'ai dit non à de la substance la veille. Donc, l'équation est facile, puis c'est rendu ancré dans ma vie. Bon, mais en même temps, il y a des gens qui ont un rapport très sain avec l'alcool, puis c'est ça aussi qu'il faut souligner. C'est correct si le lendemain matin, tu es un petit peu gueule de bois, c'est correct, parce que tu dis le lendemain matin, ben regarde, moi, j'ai ma journée, j'ai du fun, j'ai eu du plaisir hier. Donc, la notion de plaisir avec l'alcool, c'est important d'en parler. Quand tu n'as plus de plaisir avec l'alcool, là, on va aller chercher de l'aide.
Ouais,
ça, c'est une notion importante.
Ben, c'est drôle, mais moi, toute la semaine, j'ai pensé à un commentaire que toi, tu avais fait la semaine dernière, mais sur l'intention. Moi, les questions que j'ai commencé à me poser, c'est, OK, pourquoi tu prends un verre? Puis ça pourrait être la même question sur quelqu'un qui fume un joint. Pourquoi as-tu besoin de ça? Pis c'est la réponse qui est importante. Parce qu'il y a des fois, moi, j'arrive le soir, une longue journée difficile, je regarde ma blonde. Tends-tu de prendre un verre? Oui, on prend un petit verre, chin-chin, santé. Mais pour nous, on est chanceux, ça s'arrête là. Mais l'intention, c'est depuis une semaine, je me pose la question, OK, pourquoi tu prends le verre. C'est-tu parce que tu en as besoin, tu en as envie, ça va te relaxer. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu mieux mon comportement puis celui d'autres personnes. Parce que si la réponse est je prends un verre parce que j'en ai besoin puis sinon la soirée va pas être bonne, ben là, j'ai l'impression qu'il y a un problème.
C'est un relaxant, c'est vrai. Par exemple, l'effet physiologique là, de l'alcool.
La fin de la journée. Tu t'es dit, je me suis rendu jusqu'à 5h30. Mais c'est parce que s'il y a quelqu'un qui, à 10h15 le matin, la journée part mal, puis il pense déjà à son verre, je pense que c'est différent de quelqu'un qui dit à 3h15, « Ah, oh, ça va être le fun, je vais prendre un verre avec un chum, un 5 à 7, puis ça s'arrête là. » Mais c'était un peu bouleversant ce que tu as dit, parce que là, j'ai commencé à me poser moi-même des questions. Puis il y a une couple de journées où j'ai dit non, je ne vais pas en prendre de verre aujourd'hui parce que j'en ai pas envie ou pas de besoin. Mais je pense pas que c'est aussi facile pour bien du monde, puis je sympathise pour eux. Puis j'en parlais justement avec ma blonde, je parlais de ça avec la belle Linda, puis elle me dit, tu sais, Justin, il y a du monde qui retourne chez eux pendant les fêtes, ils vont être chez eux 3 jours. Puis peut-être qu'ils n'ont pas la même famille que nous autres, peut-être que eux ils se disent, la seule façon que je vais traverser ça, c'est en buvant. C'est l'alcool qui va me permettre de passer les 3 jours chez papa, maman, chez ma soeur, chez mon frère, d'autres, des parties de Noël. Ou tu retournes dans ta ville natale. Tu sais, tu retournes, puis là, tu revois tes chums. Bien, quand tu revois tes chums, tes amis, pendant les fêtes, où est-ce que tu les revois? On se donne rendez-vous, tu vas au pub, au vieux pub, tu vas au vieux... Fait qu'il y a plein de pression. Il y en a qui est un peu plus, je veux pas dire positive, mais t'es entouré de gens que t'aimes, de vieux chums. Tu veux recréer les moments que t'as vécu peut-être il y a plusieurs années.
Ah, écoute, il y a tellement d'occasions, là. C'est difficile de les rater, ces occasions-là, Jessica.
Il y a une manière de procéder, parce qu'on en a parlé la semaine passée, c'est comme le pot de biscuit. Tu sais, de comment gérer ton pot de biscuit. Moi, quand j'étais enceinte, même si j'étais énormément enceinte, les gens m'offraient un verre de vin parce que ça leur donnait le droit à eux de boire. Au début, je disais, ben non, là, regarde, c'est comme évident.
Ils t'offraient du vin, même
totalement. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Je sais pas, Jean-Marie, qu'est-ce que tu vas en penser, toi qui ne prends plus rien. Mais les gens, c'est comme si moi, le fait de, exemple, je décide de jouer au hockey, puis je décide que j'ai mal aux jambes, je joue plus au hockey, mais j'y vais. Mais c'est plate parce que ma gang, elle joue tout au hockey. Donc, si je suis avec une gang qui boit, puis moi, je décide de pas boire, mais j'étais avec une gang qui boit, ça peut les faire paraître, mettons, ben là, gars, vous autres, vous êtes pas corrects. Moi, je suis correct. Moi, j'ai une belle vie. Je me lève de bonne heure. Je suis en forme. Vous autres, ma gang de losers, vous l'êtes pas. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est quoi pour nous qui est capable, exemple, d'avoir du contrôle avec l'alcool, de prendre le verre de vin plein et de ne pas le boire? Moi, je disais plus rien. Ma bédaine parlait en soi, tu sais. Puis je me disais, les gens, même si je suis enceinte jusqu'aux oreilles, ils ont besoin que j'aille un verre de vin pour leur donner le goût. Leur dire, gars, c'est correct que toi, tu bois.
C'est comme les gens qui te servent beaucoup.
Oui, c'est ça.
Qui sont tout le temps en train de servir les autres.
Oui.
Puis ils se manquent pas quand ils arrivent leur verre.
Ils sont derniers, mais ils se manquent pas pantoute.
Non, c'est ça.
Mais faites attention à votre verre, justement. Ouais. Tu sais, parce que si tu le gardes plein, je parlais de ça, justement, mon
c'est
avec
pas
mon
comment
conjoint,
combien tu bois.
Non. Ouais. Tu le sais pas. Donc, moi, je dis, calcule. Il y a que toi qui es responsable de ta vie. Il y en a qui n'ont pas la même chance. Tu sais, que c'est vraiment un excès ou c'est une éducation.
Mais d'ailleurs, tiens, là-dessus, Jessica, tu me permettras.
Ouais.
Fais-nous un peu l'éducation là-dessus. Quand est-ce qu'on sert?
Oui. Comment on sert un verre de vin?
Est-ce qu'on attend que ça soit vide? Est-ce qu'on le remplit à moitié plein? À partir de quand on doit resservir un invité, mettons?
Quand j'étais à Vancouver, il y a quelque chose qu'on fait qui est super qui s'appelle serving it right. La personne qui te sert, autant un hôte à la maison qu'un serveur ou serveuse, doit attendre. Que le verre soit vide avant de le remplir. Comme ça, tu peux calculer tes onces. Un verre plein, c'est 5 onces environ. Okay? Un once, c'est 30 millilitres. Rationnellement, là, si tu calcules ça, tu peux avoir environ 6 bouteilles de vin, de 6 verres dans une bouteille. Pardon. Donc, une femme, c'est 2 à 3 verres. Un homme, c'est de 3 à 4 verres. Sachant ça, plus simplement, une bouteille à 2. Hein? On peut-tu rendre ça plus simple? Donc, si vous calculez ça, vous allez à la maison, Isabelle, on s'en va chez les gars, on amène une bouteille à nous deux. On le sait qu'on va être correct, on boit tranquillement, on boit de l'eau pour ne pas se déshydrater, et on mange. Ça, c'est la clé aussi parce qu'on n'a pas le même poids corporel. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous servez d'être responsable, de faire attention qu'ils ne partent pas, justement. Tu sais, regarder les clés. Moi, je commande des Uber ou je commande peu importe, le Théo taxi, des taxis à mes invités. Je suis la personne en charge. Okay? Et ça, ça fait toute la différence. Et si c'est mon copain qui boit, moi, au début, là, j'ai toujours une façon de faire. Tantôt, je t'écoutais. Là, t'sais, moi, je prends un verre ou deux. J'ai jamais la gueule de bois. Ça n'arrivera pas. Je ne trippe pas là-dessus. Mais j'aime un verre de vin. Donc, je commence un verre, deux verres. Dès que je sens que je change, que j'ai le feeling, ben c'est de l'eau que je mets dans mon verre et personne s'en rend compte. Ouais. Rendu là, ils s'en foutent complètement. Et puis,
son
je l'ai
ben
fait,
girlo,
son girlo, puis même ouais. à ça, même s'ils le voient, ils ouais. vont faire l'autruche, ils vont faire semblant. Fait que moi, personne m'achale, je me sens pas coupable, j'ai mon verre de vin, mais avec de l'eau dedans, puis that's it. C'est mon truc.
Jean-Marie?
Ben je trouve ça le fun. T'as soulevé un point intéressant, Jessica, par rapport au fait que si moi, je bois pas, je ne veux pas que les gens se sentent mal à l'aise de boire. Je suis pas dans le jugement, je suis dans le non-jugement. Moi, c'est un choix. Et ça a été très, très long avant que je prenne mon premier verre. Et j'ai trippé sur le buzz de l'alcool, sur les substances et tout ça. Mais là, je trippe high on life. Moi, je m'amuse à jeun et j'ai du fun. Et si toi, tu prends une consommation, une substance pour avoir du fun, c'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est important de mettre les gens à l'aise. Alors, c'est sûr que quand t'es petit puis c'est connu que ton père, c'est Jean Lapointe, c'est un alcoolique qui a arrêté de boire, les gens, ils disent, ah, oh, toi, tu bois pas. Ah, oh, c'est vrai, je comprends, c'est à cause de ton père. Ah, ouais. Ça a fait mon affaire en maudit parce que j'avais pas besoin de justifier. Ben, non, ça me tente pas. J'aime pas le goût. Mais, à un moment donné, je dis, regarde, que mon père soit alcoolique ou pas, que ma mère soit décédée à cause d'un problème d'alcool ou pas, moi, j'ai fait un choix. Mm-hmm. Pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé et aussi parce que je me connais. Je suis un démon, dans le fond, si je commence à consommer. Je vais m'allumer comme un arbre de Noël. C'est pas le temps. Alors, j'ai pris la décision.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un démon.
Quand je prends une substance, oui. que ce soit le cannabis, que ce soit l'alcool, c'est que toute ma vie va tourner autour de ça. C'est ça la grosse nuance. T'sais. Moi, à ce moment-là, je me levais le matin et j'avais hâte de consommer. Je me couchais le soir et j'avais hâte de consommer le lendemain. C'est que même si je consommais pas, c'est la quantité d'heures, de minutes, de temps que tu passes autour de la substance, que ce soit de l'alcool ou une drogue, c'est ça qu'on voit et qu'on est capable de déterminer. Hey, toi, t'es dans des obsessions. Même si tu consommes pas de la semaine, si tu te lèves le lundi matin puis que t'as hâte au vendredi soir et que tu y penses à chaque heure de la journée, t'as des obsessions. Obsession. Ouais. Donc, ben oui, l'alcoolisme, la toxicomanie ne se mesure pas juste par la quantité que tu prends, mais par le nombre de minutes et d'heures que tu passes à y penser.
À y penser,
les réactions ne sont pas toutes pareilles à l'alcool. Moi, il y a quelqu'un dans ma famille à qui je pense qu'à chaque fois, à Noël, on regarde, je me demande combien il a bu, il est rendu où.
Ah, oui.
Parce que s'il se rend au-delà d'un certain nombre de verres, il devient...
méchant.
Une autre personne. Ouais. Désagréable,
mais
pas
même
le fun.
Un verre, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, un ou deux verres, t'as l'impression qu'ils ont bu deux bouteilles. C'est comme le rapport à l'alcool est différent pour chacun.
Puis il y a tellement de pression. Moi, je vais revenir là-dessus. T'as presque, c'est con ce que je vais dire, mais t'as un avantage parce qu'ils le savent qu'il y a un historique.
Ouais.
Tu l'as dit, puis là, ça fait 10 ans que t'as rien touché. Mais c'est quand t'es dans un mode où tu veux juste contrôler, où tu veux moins consommer. Moi, je suis rendu, je fais des fake drinks.
C'est ça, exactement.
Je fais semblant d'avoir un vodka soda, un vodka 7-Up. Ils disent, qu'est-ce que tu bois? J'ai un vodka 7, mais il est plein. C'est juste du Sprite. Le premier, j'ai fait un vodka quelque chose. Puis le reste, c'est de la ginger ale ou c'est du Sprite. Juste pour que le monde se sente pas mal.
Pense que t'es
dans
la gang, c'est
ça.
Je fais pareil.
Oui.
Hey, t'imagines, c'est quelque chose.
Je fais vraiment pareil.
Toi aussi?
Complètement. Puis c'est pas parce que je m'assume pas. C'est parce que, regarde, j'ai pas de temps à perdre.
Ben, c'est expliqué. Il faut toujours... Tu te mets dans une situation, là, faut que j'explique.
Non, mais il y a un décalage. Avouez, les amis, puis on va aller à la pause là-dessus, puis on reviendra en parler. Il y a un décalage entre la personne qui boit et la personne qui boit pas. Il y a quand même un décalage. Il y a Jean-Marie, lui, il est high naturel. Il y en a une coupe de même. Ben, moi, je peux y arriver aussi.
Excuse les quatre. Mais là,
c'est vrai, les quatre,
on est quand même
passionnés.
Ouais. Mais peut-être qu'il y en a plus qu'on pense qui sont high naturels, dans le fond. Puis peut-être qu'on endort notre énergie naturelle.
High naturel. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable.
Mais c'est sûr que tu vas, puis même toi, on juge. Mettons que tu bois pas, puis tu vas dans une gang qui boit. Comme tu disais, Jessica, tu les regardes, mais en même temps, ils te jugent aussi.
Mais c'est ça, mon point.
Ils te jugent, ils vont dire, mon Dieu, elle est plate.
Ben c'est ça.
Fait qu'il y a un vrai décalage. Si vous voulez bien, on va aller à la pause là-dessus. On va revenir avec les commentaires de nos auditeurs. Est-ce que vous devriez vous inquiéter de votre consommation d'alcool? Après tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça génère chez vous comme réflexion par rapport à l'alcool qui est vraiment institutionnalisé dans notre société? Je pense que le mot n'est pas trop fort. 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. On parle de notre consommation d'alcool et de, du fait qu'on aurait peut-être à être inquiet. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. On va parler d'abord au docteur Chiasson, Jean-Pierre Chiasson, qui est directeur médical de la clinique Nouveau Départ, parce que on voulait à tout prix lui parler au docteur Chiasson, parce que la semaine dernière, entre autres, on a beaucoup parlé des médicaments, en fait, pas assez, mais on voulait en reparler cette semaine, reparler de ces médicaments qui nous empêchent de boire. Bonjour, docteur Chiasson.
Bonjour, Madame Maréchal.
Il y a effectivement des médicaments qui nous incitent à ne pas boire. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
Il faut expliquer tout d'abord. Il y a trois sortes de monde. Hein. Il y a ceux qui ne boivent pas. Ben bravo. Il y a ceux qui boivent normalement, c'est-à-dire qui respectent les règles de Santé Canada, c'est-à-dire qui boivent. Et ces gens-là, en général, n'ont pas à être soignés avec des médicaments. Les médicaments s'adressent à une catégorie de gens qui est entre 5 et 10 % de la population adulte nord-américaine qui se font soigner, qui ont un trouble lié à l'utilisation de l'alcool, ce qu'on appelait la dépendance à l'alcool. Or, les médicaments s'adressent à ces gens-là quand on les soigne dans un cadre d'une cure de désintox ou de réadaptation. Il y en a trois types de médicaments parmi les principaux. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le disulfurant ou l'antabuse.
Ça, c'est antabuse, oui, oui.
Quand on donne ça, quelqu'un qui prend une goutte d'alcool, il est très malade. C'est-à-dire que sa pression monte, son pouls augmente, il a de la difficulté à respirer. S'il y a des effets secondaires, on appelle ça, c'est une médication, c'est un grand mot, antidipsotrope, c'est-à-dire que ça enlève le goût de boire parce que les individus sont très malades. Il y a d'autres types de médicaments. Il y en a un qui s'appelle la camprosate ou le campral, qui, lui, agit sur d'autres types de récepteurs, qui, lui, enlève le goût de boire. Mais ça s'adresse aux gens qui ont un problème d'alcoolodépendance, dont l'abstinence est la première étape du long processus de réadaptation. Alors, ceux qui ont des problèmes d'alcool, selon la classification qu'on utilise, là, de troubles liés avec l'alcool modérés à sévères, dont l'abstinence est la seule voie, là, quoi qu'il y ait des débats là-dessus, mais ce médicament-là enlève le goût de boire. Et il y a un troisième qui s'appelle le Revia, ou la naltrexone, qui est un antagoniste des récepteurs des opiacés, mais ça brise la prime de plaisir avec l'alcool, parce qu'ils boivent, mais ils ont moins de plaisir. Alors, ce sont les trois types de médicaments qu'on utilise comme médecin quand on soigne des gens qui ont des troubles liés avec l'alcool, qui ont de la difficulté à maintenir l'abstinence ou qui ont besoin de support. C'est-à-dire que directement relié à l'alcool. Là. Il y a d'autres médicaments pour les problèmes qu'on appelle comorbides, là, des gens qui ont des troubles psychiatriques concomitants, mais c'est pas de ça que je parle.
Oui, je comprends, Dr. Chiasson. Dites-moi, c'est intéressant ces médicaments-là parce que, et puis je pense que c'est important de le dire à notre auditoire, la semaine dernière, beaucoup de gens téléphonaient en disant qu'ils avaient justement des problèmes à gérer leur consommation d'alcool, même des alcooliques, et ils n'étaient pas au courant de ces médicaments qui existaient. Comment ça se fait? Est-ce que c'est assez connu de la part des médecins généralistes, vous pensez?
C'est de façon étonnante, c'est très peu connu.
Mais oui.
Et assez peu utilisé. C'est sûr que le médicament tout seul ne fait rien s'il n'y a pas ce qu'on appelle une approche psychosociale intégrée, tu sais, parce qu'il y a...
Une psychothérapie, par exemple.
Bien, psychothérapie de groupe et individuelle, oui. Parce que tout le traitement dans les troubles liés à l'alcool ou l'alcoolisme, c'est faire des nouveaux réapprentissages, des nouvelles pour apprendre à avoir du plaisir, parce que la maladie, c'est un syndrome déficitaire de la gratification. C'est une pathologie du tonus de plaisir. C'est que les gens essayent de trouver des sensations, puis ça règle rien. Ils sont plus malades après. Toutes les approches thérapeutiques doivent être intégrées, tu sais. La réadaptation, la psychothérapie, la thérapie de groupe, le mode de vie, une philosophie, mais la pharmacothérapie est très utile.
Et ces médicaments-là, on les prend toute la vie ou on les prend simplement pour nous aider à passer à une autre étape?
Je dirais qu'il y a certains médicaments qu'on peut prendre au début, là, comme l'antabuse. Là,
pour s'aider un peu. Là.
Souvent, les gens sont plus fragiles dans certaines situations où ils vivent plus de stress, ou quelqu'un qui s'en va à un party, puis comme il fait un mois qu'il a arrêté de boire, puis là, il a peur de dire qu'il ne boit pas, il est gêné de dire qu'il ne boit pas, il fait offrir de l'alcool, il ne sait pas comment répondre, il y a quelqu'un à parler à quelqu'un d'autre, il est gêné, il est timoré. Alors, c'est évident que quand ils ont pris ça, en général, ça les sensibilise. C'est comme anxiogène de boire. Là. Par ailleurs, il y a d'autres médicaments qu'on peut donner plusieurs mois pour enlever le goût, mais la plupart du temps, les gens, quand ils font une démarche puis qu'ils consolident leur abstinence, ils en viennent à être même plus heureux que les autres parce qu'ils trouvent d'autres circuits.
Voilà, c'est ce que Jean-Marie nous dit. Jean-Marie, que vous connaissez bien, je pense, hein, Dr Chiasson.
Il me dit
que vous l'avez beaucoup aidé.
Merci.
J'étais tellement content de savoir que tu étais le médecin qui allait participer à l'émission, parce que j'ai le privilège de parler pratiquement tous les jours avec Jean-Pierre et ça fait partie
tous
de notre thérapie. Ben, c'est parce qu'on s'aide tous les deux, on ne consomme pas. Et Jean-Pierre, si tu me permets, Jean-Pierre a transcendé des démons, dont la mort de son fils. Son fils s'est suicidé il y a une quinzaine d'années maintenant, Jean-Pierre?
En 2000,
ça fait 18 ans. Donc, Jean-Pierre a réussi à passer à travers la mort de son fils sans rechuter, avec l'aide de ses proches. Et pour moi, Jean-Pierre est un modèle de résilience et aussi, il a donné un sens à sa vie, à sa maladie, l'alcoolisme, la dépendance, en soignant les autres.
Ouais, parce que donc, vous aussi, Jean-Pierre Chiasson, vous aviez comme médecin un problème de toxicomanie, alors je comprends bien.
Oui, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 46 ans que je bois pas. Mais vous savez, c'est sûr que ça donne pas toutes les qualifications d'arrêter de boire, hein. C'est pas parce que mon père disait que ça fait 10 ans qu'on est dans une écurie qu'on devient un cheval, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que oui, j'ai développé, en fait, d'arrêter de consommer m'a permis de m'épanouir, de découvrir des intérêts et des nouveaux projets tous les jours. D'ailleurs, avec le décès de mon fils, on en parle publiquement, mais j'ai créé une fondation pour aider des alcooliques en réinsertion sociale. Alors, c'est évident qu'on doit sublimer nos souffrances, leur donner un sens. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est pas juste vrai pour moi. Mais
c'est difficile d'y arriver.
La vie est difficile, tout le temps. C'est-à-dire que rien de facile. Être en forme, là, c'est un défi, hein, de se lever le matin, d'aller au gym, de bien manger, de bien boire, de pas chicaner, de créer des liens, de se sentir utile, puis pas se laisser ébranler par l'opinion des autres. Ça demande un travail.
Moi, j'ai juste une petite question. Une question pour vous, c'est, disons qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui se demandent où trouver ces médicaments-là, ou quelle est la route à suivre. Est-ce qu'on doit avoir une prescription, ou est-ce qu'on peut aller à la pharmacie?
Oui, ça prend une prescription. C'est-à-dire que c'est des médecins qui sont habitués à travailler les problèmes reliés avec l'alcool, qui peuvent prescrire ça. Ça prend à l'intérieur d'un suivi. Et c'est pas nécessairement tous les médecins qui sont familiers. D'abord, il n'y a pas tant de médecins qui s'intéressent aux problèmes de toxicomanie, d'alcoolodépendance, hélas. Deuxièmement, ça prend quelqu'un qui s'implique comme médecin, pas juste d'un pilule, mais dans la relation, de créer un peu un lien et d'offrir à son patient des alternatives pour qu'il fasse le deuil d'une substance toxique, mais de l'aider au point de vue pharmacologique. C'est la même chose qu'un antibiotique. Hein? Si vous donnez un antibiotique à quelqu'un qui a une infection, mais s'il mange mal, puis dort mal, puis s'il roule dans le bout, il va s'infecter. Hein?
Vous êtes bon. Mon Dieu, qu'on aurait tous un besoin d'un médecin comme vous, Dr Chiasson. Oui.
Réalise-tu à quel point je suis chanceux? C'est mon médecin.
Il parle tous les jours.
C'est mon grand ami. C'est mon médecin aussi. Alors, donc,
peux-tu vous appeler, moi, tous les jours?
Ah, oui, ça me fera plaisir.
On se fait un petit 5 minutes tous les matins avec le Dr Chiasson. Un petit pep talk, Dr Chiasson. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du fait que la société permis autant cette socialisation par l'alcool. Je disais tout à l'heure l'institutionnalisation de l'alcool, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est un monopole d'État. L'État nous le vend parce que ça rapporte aussi, puis on nous rappelle que ça nous rapporte un peu à nous aussi. Donc, toute cette tout ce gros dossier qui est devenu l'alcool permis et vendeur et vendable, toute cette commercialisation. Vous en pensez quoi, vous, docteur Chiasson?
En fait, l'alcool est vieux comme le monde, là, ça existait chez les Égyptiens.
Oui, c'est sûr.
C'est-à-dire que ça peut être l'alcool un moment de socialisation. Il y a des gens qui consomment normalement, qui n'ont pas de troubles, et des gens qui n'en font pas d'abus. Là. Alors, c'est pas tout le monde qui a besoin de soins. Je vous dirais que c'est banalisé un peu. Et quoique depuis quelques années, il y a eu des mises en garde avec la conduite avec faculté affaiblie, par ailleurs, effectivement, il y a quelque chose de banalisé quand même. On le voit avec le cannabis où là, on l'a légalisé, mais le message envoyé, c'est un message de banalisation. Je pense que les êtres humains, depuis l'histoire de l'humanité, ont cherché toujours des solutions faciles pour avoir du plaisir ou pour contrer leur malaise, leur peur, leur angoisse, leur insécurité, leur panique en trouvant des substituts, surtout pour essayer de s'amuser, pour vivre des sensations, et la plupart du temps, ça finit mal. Or, on le voit avec l'alcool. En fait, si on enlevait, je vous dirais, dans une autre société, les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue, les problèmes d'obésité, puis les problèmes de gambling, puis de dépendance sexuelle, on vide les hôpitaux, puis les docteurs n'ont plus d'ouvrage, puis il n'y a plus d'avocats.
Ce serait bien triste. C'est tellement vrai.
Peut-être qu'on aurait plus de temps pour faire d'autres choses.
Aussi.
Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir. Ah,
vous êtes fabuleux. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Chiasson, directeur médical de la clinique Nouveau Départ. Il est spécialisé en toxicomanie. On s'arrête ici. On revient avec vos commentaires tout de suite après ceci. Notre numéro, 514-790-9850. Et vous n'allez pas le croire. Raymond, à qui on a parlé la semaine dernière, nous écoute. Il nous rappelle. Ah. Bonjour Raymond.
Je suis Isabelle.
Comment ça va ce matin?
Bon, ça va. Disons, je vous écoute, que je m'émotive un peu. Là. Comme c'est Jean-Marie a dit tantôt, puis le docteur Chiasson. Là, j'ai pris le nom des médicaments que le docteur Chiasson a dit.
Oui.
Parce que moi, j'ai appelé la semaine passée après que Jean-Marie a parlé, puis qu'il y avait une balle pour ça. Puis ma médecin en infectiologie n'est même pas au courant. J'ai parlé à l'infirmière bachelor, pas les autres non plus. Fait que là, j'ai tout pris le nom des médicaments tantôt. Moi, j'essaie de m'en sortir, mais je suis pas capable de comprendre. Mon body en a besoin. J'essaie de tout faire. Ça fait 3 semaines, je t'ai dit, j'avais des pots de pelules à 20 000 piastres.
Ouais.
Ça fait 3 semaines, je le regarde. C'est Noël. J'ai tout décoré. Comment tu fais pour arrêter de boire dans le temps ici? Quand il y a des visites qui arrivent de partout chez vous.
Ben non, c'est sûr. C'est sûr. C'est un combat de chaque minute. Vraiment.
J'ai bien aimé ce que Jean-Marie a dit tantôt. Parce que ma blonde, elle a compris aussi. Ma femme, elle ne boit pas pendant tout, OK? Elle regarde aller par elle-même. Mais là, quand tu te couches ce soir, là, tu vas aller te coucher à 9h30, tu ouvres ta porte de frigidaire, puis tu checkes la bière, tu vas avoir de la bière demain matin à 5h. J'ai un petit problème chronique à quelque part, là. Puis je ne suis pas gêné, je m'assume. Là, je suis émotif aujourd'hui, mais je suis pas gêné, je m'en suis dit, mais on fait quoi? Moi, si je m'en mets 12 jours en thérapie après les fêtes, au moins, il m'a donné comment ça s'appelle ça? Voyons, pour te dégourdir, là. Un sevrage.
Oui, oui.
Mais je le fais où, moi, sevrage? Chez nous? Non, pas très bon.
Ah, ben non,
c'est assez solide, mais que ça serait fait, mais en attendant, là. La pelule, là. Moi, j'aimerais bien mieux la pelule qui me rend malade.
Ouais.
J'ai tout pris les noms tantôt, là. Puis, hostie, je vais l'appeler mon médecin.
Ben oui, c'est sûr,
mais
absolument.
Moi, je vous écoute tout le temps, OK? Je passe ma vie sur la radio. Ça m'empêche pas d'être fonctionnel, mais je prends un coup, là. Je fais tous mes contrats. Mes enfants, donc, lundi matin, je m'envoie avec ma petite fille, OK? Tu sais bien comment ça blesse, là. Ma petite fille a dit « Papi, c'est toi qui viens parce qu'ils ont un atelier de bricolage. On doit en amener soit un parent ou un grand-parent. »
Fait que vous y allez?
Ben oui, moi, tous mes petits-enfants, j'ai des gens qui m'appellent papy fou. Hein? Puis ma petite fille a dit non, je me suis dit papy. J'ai dit qu'elle m'a posé comme question. Elle dit là, papy, elle dit, je veux juste une chose, papy. Elle dit, c'est que lundi matin, tu ne sentes pas la boisson. Puis tu commences à prendre dans le bas, j'essaie de tout faire, mais il y a une place que je pourrais aller passer de. Pas Victoria de Bourbi, ça, là. Il y a une place que je pourrais aller, mais je paierais juste pour avoir la paix 15 jours.
On va vous trouver ça, Raymond. Ben, on va vous aider, Jean-Marie.
Raymond, moi, on est tous touchés dans le studio à vous entendre parler.
Je sens tous les auditeurs qui écoutent, là aussi.
Et il y en a d'autres, Raymond, qui écoutent.
Oui,
il y en a d'autres aussi. Comme vous. Et puis, il existe des ressources privées, comme la Maison Jean Lapointe, comme la Clinique Nouveau Départ. Mm. Il y a des ressources gratuites, comme le Centre de l'Art Cormier. Ça, c'est important que vous preniez ça en note. Vous pouvez aller faire une désintox à un hôpital. Ça aussi, c'est gratuit. Parce que c'est vrai que de rentrer dans une thérapie quand vous êtes en sevrage d'alcool, ça peut être violent. Ça peut être trop difficile pour votre corps. C'est normal. Mais si vous êtes capable aussi, bien, il y a les alcooliques anonymes. Là, évidemment, je brise l'anonymat parce que j'en parle dans les médias puis on n'est pas supposé parler de ça tant que ça. Mais là, moi, je le fais par... Pardon? Ben moi, je vais vous le dire, là, c'est important que je le nomme parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent même pas que ça existe, mais ça existe, des alcooliques anonymes, ça existe, il y a des groupes d'entraide, mais partout dans le monde, dans toutes les régions du Québec, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est le fun, c'est que ça va vous briser de votre isolement. Vous allez vous retrouver avec des gars puis des femmes plus jeunes, plus vieux, du même âge, qui vivent de l'impuissance face à leurs problématiques et que ça vous redonne du pouvoir parce que vous allez voir que tout seul, là, c'est tough arrêter de boire. Mais
Raymond,
à la gang, vous allez être capable.
Vous l'avez essayé, alcoolique anonyme, Raymond?
Oui, j'ai essayé. J'ai fait une période de 14 mois d'abstinence, puis une autre période de 19 mois, mais ça, c'est beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein? Puis moi, est-ce que je ne suis pas, je ne veux pas en remettre Jean-Marie ce qu'il dit, là, mais moi, je suis pas en isolement du tout, là.
Okay.
Moi, chez nous, j'ai plein... C'est ça, le problème. J'ai plein de monde qui arrive tout le temps. Puis comme je disais à ma femme, je dis, « Après, il va falloir que ça arrête, là.
Ouais. »
OK? C'est pas un local de ma part, ici, là. Mais m'en est tout le monde. Tu sais, c'est mes chums, ils arrivent, hein? Ça, une petite bière ici, une petite bière là.
Ça boit tout le temps. Ça boit tout... Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas capable jamais de vraiment... Ouais. Justin?
Je pars deux jours sans boire, là. Tout fier de moi, wow, puis il n'arrive un autre.
Ouais,
non.
Ouais,
c'est la langue, ça dépasse,
puis ah oui. Ah non, c'est tout à fait dans le ton de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est difficile pour quelqu'un qui veut contrôler sa consommation d'arrêter de boire.
C'est parce qu'on oublie que la toxicomanie est une maladie, OK? Mm-hmm.
Ouais.
C'est comme le diabète, c'est comme avoir un cancer.
Ouais.
Fait que quand j'entends Raymond, moi, ce qui me fait mal, j'ai travaillé aux instituts de recherche en santé du Canada dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale. C'est le monde... Ils sont durs sur eux-mêmes.
Mm.
Les toxicomanes sont durs sur eux-mêmes. Ils sont fâchés contre eux. Mm. Ils sont déçus d'eux-mêmes. On a tous les larmes aux yeux, là, les yeux rouges. On écoute Raymond qui est dans la même situation que nous. On l'entend, la tristesse. Mais je veux juste vous demander une chose. Raymond, donnez-vous une tape sur le dos, là. Quand vous faites deux jours, c'est bon que vous faites deux jours. Puis rappelez-vous que vous l'avez fait pendant plus d'un an. Puis vous êtes capable. Mais les gens qui ont d'autres maladies, ils se fâchent pas contre eux-mêmes d'avoir le diabète ou une autre maladie de rein. C'est pas de leur faute. Je suis pas en train d'essayer d'excuser le passé, mais je fais juste... Donnez-vous une chance, là, puis souriez-vous un peu. Votre petite fille, vos petits-enfants vont vous voir, c'est parce qu'ils vous aiment, puis ils savent ce qu'il y a en dedans de vous. Fait que je vais juste vous demander de vous rappeler de ces choses-là dans les moments où c'est difficile, parce que c'est tout vrai. Puis le stigma, le plus gros problème dans la santé mentale et la toxicomanie, c'est le stigma. On a peur de dire au monde, moi, j'ai ce problème-là. Moi, ça va pas. Je suis down. Puis vous avez déjà franchi l'étape la plus difficile. Vous le savez, vous avez un problème.
Ouais.
Et vous savez que vous voulez agir. Ça, là, c'est des choses énormes. Puis Jean-Marie, tu connais ça mieux que moi, mais pour moi, c'est l'étape la plus difficile.
Mais tu sais, en même temps, Raymond dit, mes amis, ils arrivent, mes chums, même si sa femme ne boit pas et tout, puis il lui dit, il va falloir que ça arrête, puis... des fois, tu es obligé de te dire, OK, ben, va falloir que je change d'amis ou
mais
va falloir que j'arrête
job.
De. Parce qu'un vrai ami,
ouais.
Raymond, là, il vous encouragera pas à boire s'il vous connaît bien.
Ça commence à exister. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quand on décide, hein, on peut voir tous les psychothérapeutes qu'on veut, puis c'est bon, c'est un support. Mais la force mentale, c'est l'essentiel.
Ouais.
Et quand on prend une décision, qu'on décide d'exister, ça dérange autour de nous. Il y en a qui vont partir parce qu'eux autres, ils n'ont pas décidé d'exister. Ils vivent sur les autres ou sur les apparences ou dans le jugement.
Ouais.
Raymond, Vous avez pris une décision, c'est déjà, je l'entends, vous avez décidé d'exister. Il va y avoir un changement autour de vous. Il y a un changement aussi physique, comme quand on décide d'aller au gym, puis ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Ton body, là, il en arrache.
Mais je suis tellement dur.
Les autres sont toutes beaux, sont toutes fortes, sont toutes... Puis toi, tu sues ta vie, puis tu te peux plus. Mais là, c'est ça qui va se passer. Il va y avoir une adaptation, un mal-être physique, parce que c'est un mal-être intérieur qui est en train de changer. Parce que quand on prend la décision, puis qu'on va de l'avant, il n'y a plus personne qui se met à travers de notre chemin. Vous avez la chance. Ben, c'est pas une chance parce que vous savez vous entourer. Vous avez une femme, des enfants qui vous aiment, plein d'amour là-dedans.
Mais ça y
maintenant,
prend des outils. Là.
C'est des outils. Puis là, il y en a des outils. Puis on ne parle pas aussi des gens qui vous entourent. Parce que j'entends beaucoup les jeunes, tu sais, ils ont honte de leurs parents. Ou sortir de ça, il y a Al-Anon qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, ça
qui
peut être
un groupe,
support.
C'est les alcooliques anonymes, mais pour les proches, les amis d'alcooliques qui ont besoin aussi de parler de ce que ça fait dans leur vie. Vivre avec une personne qui a un problème d'alcool, ça a un impact sur ta vie. Là. Comme si tu vis avec quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, ça a un impact sur ta vie.
C'est
comme
énorme.
La maladie a un impact sur la vie des proches. Là.
Mm-hmm. Puis regarde ce que l'État fait. Là. L'État a un monopole sur l'alcool, il y a un monopole sur le cannabis, il y a un monopole sur le jeu, hein, les casinos.
Ouais.
Mais quand on allume la TV ou la radio, la pub qu'on entend, il y a des pubs pour aller au casino, il y a des pubs pour aller à la SAQ, les spéciaux de la semaine. On nous envoie ça en pamphlet à la maison. Mais je regarde les investissements qu'on fait dans la recherche. La seule chose, la raison qu'on est ici, c'est à cause d'un sous-ministre ou d'un ministre associé qui a fait une sortie où est-ce que sa solution à lui, c'était de changer l'âge puis de dire aux jeunes, ne le faites pas. Fait qu'il y a un plus gros problème que ces gens-là. On a un problème dans notre État où est-ce qu'on a vu qu'on veut plus de revenus, plus d'impôts, mais l'envers de la médaille... Est-il là? Est-ce qu'il existe?
Tout à fait.
Moi, je le vois pas, l'envers.
Raymond, gardez la ligne. On va prendre vos coordonnées et on va faire un suivi avec vous. Merci beaucoup. Bon courage.
J'ai bien aimé Jean-Marie et les autres. Prends mon suivi, là, puis rappelle-moi.
Mais certainement, avec grand plaisir. Merci de nous avoir appelé, Raymond. On revient tout de suite après. Bon, on pourrait faire une deuxième heure là-dessus. On est vraiment dans la discussion sur la consommation d'alcool. Évidemment, le témoignage de Raymond touche tout le monde. Plein de gens qui écrivent là-dessus, qui lui souhaitent bonne chance, qui lui envoient de l'énergie positive. Daniel, bonjour. Vous êtes un abstinent depuis très longtemps.
31 ans. Au 1er janvier 2019, exactement.
Ah, vous aviez décidé ça un 1er janvier, vous?
Non, c'est arrivé par accident après une cuite absolument incroyable. Ma famille s'est mise autour de moi, m'ont parlé, puis effectivement, j'ai réalisé que j'avais un problème. Puis, ma voie de garage, c'était probablement la morgue, là, je veux dire, cette direction-là que je m'en allais. Mais je voulais vous dire merci pour votre émission. C'est une des premières fois que j'appelle dans une émission de radio ou quelconque. Puis, je voulais vous dire que c'est la première fois que j'entends parler du sujet de façon intelligente, émotive. Puis, je voudrais remercier tous les intervenants qui sont autour de la table. C'est fantastique.
Merci. Merci beaucoup, Daniel.
Je parle en connaissance de cause. Je peux vous dire, j'ai perdu mon père un an après avoir arrêté de consommer.
À cause de l'alcool?
Non, mon père est mort du cancer. Mon père ne buvait pas. Et donc, le côté génétique, j'ai peut-être un doute là-dessus. Je suis le seul dans la famille qui a ce problème-là.
Ouais.
Mais je peux vous dire que mon système d'aide, donc on parle des meetings, on parlait d'alcoolique anonyme et tout autre meeting.
Ouais.
Quand mon père est décédé, j'ai un très bon ami qui m'a amené faire 2 meetings par jour pendant presque un mois.
Ah oui, il y allait avec vous?
Avec moi, midi et après-midi.
C'est beau ça.
Ça, c'est un ami. On parlait des amis. Des amis de boisson, puis les amis qui t'aident à aller à des meetings.
Dans ton rétablissement.
Ça, c'est... T'en as besoin de rien qu'un, au final.
Exactement. Oui, quelqu'un qui t'accompagne.
Exactement.
Ouais.
Moi j'ai enlevé tout le monde autour de moi quand j'ai arrêté de consommer, puis j'ai un ami qui est resté, qui a arrêté pour m'encourager, qui a arrêté de consommer pour m'encourager. Lui, il n'avait pas le problème. Moi, j'étais en désintox. J'ai été faire mon 21 jours. J'en ai arraché pendant 21 jours. Puis lui a arrêté juste pour m'encourager auprès de moi. On se voit plus aujourd'hui après des années, là. Ça fait près de 30 ans, là, on s'est perdu de vue. Mais je suis à peu près persuadé qu'il ne consomme pas plus aujourd'hui. Je pense qu'il a pris une décision comme ça. Puis aujourd'hui, je pourrais dire à Raymond, il y a une vie après la substance.
Ouais. Comment il s'appelle? C'est quoi le prénom de votre ami qui vous a aidé?
Mon ami, c'est Éric.
Éric. Peut-être qu'Éric écoute.
Oui. Peut-être qu'Éric écoute. Je pense qu'il est dans le domaine de la santé maintenant, mais... je veux dire, c'est le seul gars, il a arrêté, mais j'ai tassé tout le monde autour de moi.
C'est ça.
Puis vous voyez, aujourd'hui, ma conjointe, bon, on a une bouteille de vin à la maison, je pense que ça fait un mois, le prix de 2 verres dedans.
Puis vous, ça vous dérange pas?
pas du tout, ni ma belle famille. Mm. C'est même moi qui vais leur acheter le vin pour qu'on soit
wow. Ça, c'est quelque chose.
Ça me dérange.
Ça, c'est
dérange
quelque chose.
Force.
Ouais. Hey Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage. On aurait pu faire une autre heure. Nos lignes sont pleines.
Pas fini déjà.
Non, ça se peut pas. Mais on va recommencer l'année
ensemble. Mais c'est important. On a parlé beaucoup de problématiques. Mais il y a des gens qui sont capables de boire.
De bien boire. Oui. On banalise ou on démonise. Je pense que l'équilibre, oui, c'est ça qu'on veut.
On va en reparler la semaine prochaine. On va être dans les fêtes quand même, c'est sûr. Merci Jean-Marie Lapointe, Justin Kingsley. Merci beaucoup Jessica Arnois. Merci à tous les trois.
Merci.